Plus de rue, plus les capables, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs.
Que c'était comme sain de manger ses galles.
Ah ouais?
Ah ouais. Ouais.
Ben, ça contient du fer, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est bon pour nous.
Mais moi, c'est pas la gale en tant que telle. C'est plus le. Tu sais, des fois, il y a du pu qui reste après la gale.
Oui, oui, là, oui. Demande, oui. Qui est comme transparent.
Ouais, c'était ma prochaine question, en fait. À quel point la gale était solide ou liquide?
Ben, c'est ça.
Ben, mais... t'sais, toujours solide, mais tu sais.
Ouais, ouais,
à quel point il y a un pourcentage de liquide qui est après? Fait que toi, tu penses qu'il faut vraiment savoir. C'est un peu comme un fruit mûr, finalement.
Exact. Moi, je peux manger la gale, mais je peux pas manger le pu de la gale.
Moi, je suis l'avis des médecins. Il faut la laisser vivre et mourir en son temps. Ah ouais. Live and let die de gale.
Ouais.
À mon 4 médecins sur 5.
4 médecins sur 5, oui. Les mêmes qui trouvent que la gingivite, c'est un problème.
C'est ça, les autres. Whatever.
Ouais, whatever.
J'ai le goût de manger des gales.
La gingivite, manger vos gales.
J'aurais pas dû en parler, là. J'ai juste le goût de manger ça.
Ah, ah mon Dieu. On est en onde, là.
On est en onde.
On voit pas quelle caméra filme.
Non, c'est ça, c'est nouveau, là.
Moi, je suis comme une fan à white. J'ai besoin de savoir quelle caméra est sur moi.
C'est un grand mystère. Tu peux voir dans le. Là, comme là, c'est nous autres. Salut tout le monde!
Allô!
Décidérez, 2000e émission, voilà. Édition du 35 septembre 2112. Je suis à la barre de l'émission ce soir en l'absence de Julien Bernatché, notre...
Qui a réussi à partir en France.
Ouais, oui, notre animateur substitut, qui a eu moins de pépins que Guillaume pour partir en France,
oui,
justement.
Il avait du premier coup, il paraît que ça s'est très bien passé.
Je dirais plus que la France a réussi à l'accueillir.
Ouais.
J'inverserais ça.
Ouais. Ils ont accepté de l'accueillir.
Ben, c'est ça, ça fait partie du secret, hein, de twister la phrase pour qu'elle sonne vraiment plus bienveillante et positive.
Exact. Ouais.
Fait qu'à partir d'aujourd'hui, Décidérez va devenir complètement bienveillant.
Complètement français.
Et complètement positif.
Et Julien va revenir.
Donc, et Julien va revenir, puis là, tout va s'écrouler.
Ouais, voilà.
Mais tu sais, comme vous le savez, de toute façon, ça faisait un moment que Julien n'était plus vraiment l'animateur de cette émission-là. Fait qu'on se renvoie la balle comme ça.
Aujourd'hui, moi, Maxime n'est pas là en plus.
En plus, fait que notre deuxième animateur substitut n'est pas là. Fait que vous avez l'équipe C, là.
La meilleure équipe.
La seule manière que ce soit pire que ça, c'est que Nicolas soit là.
Fait
que...
Heureusement, il n'est pas là.
C'est ça. Si vous pensiez que ça allait être
sous forme de tête en plastique.
Ça profite de Nicolas.
C'est un petit peu lui. Ben, ça a été moulé sur sa tête.
Oui,
un peu comme William Shatner et le masque de Michael Myers.
Voyons, peu de gens le savent, mais ça, c'est inspiré de la tête de Nicolas.
Un peu comme la main de René Angelil.
Première chose importante, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent des fois. Là, Maryse Lafont, elle nous a écrit pour parler du grimpe-singe.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous autres, que vous ayez lu le
Ah oui,
le
je l'ai vu.
Mais vite de même, si je vous disais grimpe-singe. Joe, si je te dis grimpe-singe, ça te dit-tu quelque chose? Aucune idée, hein?
Absolument rien.
Mais attends, peut-être qu'il faut qu'on médite, en fait, pour trouver la bonne réponse. Parce que la dernière fois, on a médité là, avant de
c'est
savoir
vrai,
si c'était
ça m'a aidé.
C'est clair, elle nous a écrit, Maryse, j'ai pas le message original, mais grosso modo, elle disait, tu sais, les monkey bars, là, les jeux pour enfants, mais eux, dans son coin, ils appellent ça le grimpe-singe.
Puis elle a découvert que personne d'autre appelait ça de même.
Moi, j'ai jamais entendu ça non plus, je dois l'avouer.
Fait que là, on est dans un... Quelqu'un qui disait, je pense que c'est toi, Étienne, qui disait que tu avais entendu parler des bars à singes.
Oui, c'est ça. J'entendais souvent bars à singes.
Qui
comme
est une traduction littérale.
Direct, qui est sans doute un anglicisme, puis ma mère serait pas contente.
Et là.
Fait que là
Gilbert, hein?
Ça, c'est ma grand-mère.
Ah, c'est vrai, c'est quelqu'un d'autre.
Ouais. Mais oui, fait que je sais pas, mais grimpe-singe, j'ai jamais entendu ça.
Mais puis moi, grimpe-singe, je me suis dit, première fois que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas de même qu'on a inventé le sida, le grimpe-singe.
Inventé le sida.
Inventé le sida.
C'est inventé le même.
C'est émané. Fait que bref, non, Maryse, il y a personne qui sait de quoi
non,
tu parles.
J'ai jamais entendu ça avant. Fait que c'est juste local, très local, j'ai l'impression. Mais là, peut-être les gens dans les commentaires, écrivez-nous si vous savez, vous avez déjà appelé ça de même ou entendu appeler ça de même. ou pas, et dites-nous où vous êtes. Fait que là, on va pouvoir faire une map éventuellement de où on connaît ce terme.
Ou si vous avez des jeunes enfants en bas âge, il n'est pas trop tard pour repartir en grand. Le grimpe-singe, là, si vous commencez à les driller tout de suite, là, puis appeler toutes les sortes de bars.
Commencez à driller les enfants.
Ouais. Driller les enfants.
Driller les enfants.
Sinon, en nouvelle brève, j'ai mangé 10 bananes et demie samedi matin pour mon contenu Patreon.
Ça, c'est dangereux.
Ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté la game des Savannah Bananas. Il n'y a personne ici qui m'avait intimidé lors de cette émission-là. Non.
Moi, j'aurais jamais fait ça, Mathieu.
Oui, parfait, genre ça.
On était toutes pas dans l'émission.
Non.
Moi, je faisais la modération.
Tu vois ce que ça donne?
C'est pour ça que je me sens à l'aise. Tous les autres ont quitté, humilié.
T'es hyper vigilant, genre comme, là, je vais parler de bananes.
Oh, vie avec.
Exact.
La pression chez les gens cool. Mais,
c'est ça, c'est que j'ai écouté les Savannah Bananas, puis là, je me suis dit, je vais manger une banane à chaque fois qu'ils font un point, tu sais. Puis là, après la première manche, après la deuxième manche, il n'y avait pas de point. Fait que là, j'ai fait, à la place, à chaque fois qu'ils font un coup sûr, un run. Mmh. Parce que là, en tout cas, je ne réexpliquerai pas les règlements parce que je vais me faire humilier encore. Mais puis là, à partir du moment où j'ai dit, hey, finalement, à chaque fois qu'il va y avoir un run, je vais manger une banane. Ben là, la manche d'après, il y a eu 4 runs de suite. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que j'y arriverais pas. Puis là, moi, j'avais acheté juste 2 régimes de bananes. J'avais juste 10 bananes. Mmh. Puis là, finalement, il y a eu 11 points. Fait que là, j'avais vraiment un sentiment d'imposteur de pas avoir rempli la condition que j'avais donnée.
Oh non.
Puis à la dernière seconde...
Quelle condition?
À la dernière seconde, Chania s'est rappelé qu'on avait une vieille banane dans le frigidaire.
On a toujours une vieille banane.
Ouais, ouais.
Dans le congélateur. Non, mais pas dans le bon pain aux bananes.
Non, pas dans le congélateur. C'était dans le fridge, elle était coupée en deux. Oh. Puis c'était un restant de vieille banane.
On prend toujours une banane.
Puis fait que c'est pour ça que j'ai mangé. Il y a 10 bananes et demie.
Fait comment qu'on se sent sur dose de potassium?
Pour vrai, c'est parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'à mi-chemin, il y a quelqu'un dans le chat, parce que c'était live, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit peut-être si tu mettais de la sauce piquante, ça changerait le mal de place. Fait que là, j'ai commencé à mettre de la sriracha dessus. Fait que j'ai de la misère à dire si ce point horrible que j'avais au milieu de l'estomac était dû à la quantité de bananes que j'avais mangées ou à la sriracha. Ouais. J'ai eu très, très mal au ventre. J'ai pas une grosse journée.
C'est sûr que c'est ça, parce que des fruits, ça fait quand même... digérer, là, c'est plein de fruits.
Mais il y a quelqu'un qui disait, une banane, ça aide le transit, et 10 bananes, ça constipe, puis je vous confirme que j'ai pas eu ce problème-là. Bien au contraire. Bien au contraire.
On a Mathieu en santé.
Ah oui.
Oui, bien vide.
Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, en fait, je me souviens où est-ce que j'ai appris que les bananes contenaient du potassium. C'est dans le film « Chérie, je nous ai réduits ». Donc, la suite de « Chérie, j'ai réduit les enfants » et « Chérie, j'ai gonflé le bébé ».
Moi, c'est ça, c'est le troisième. Là.
Parce qu'il y a un enfant là-dedans, là, c'est les parents qui sont réduits. Ouais. Là, c'est les enfants qui font le party.
C'est aussi avec Rick Moranis ou il était déjà… Okay.
C'est un de ses derniers films.
Ouais, c'est ça, hein?
Lui, il est décédé.
Non, il a juste il s'est occupé de ses enfants, fait qu'il s'est retiré de la vie publique, puis il est comme jamais revenu, mais c'est pas parce qu'il veut pas, là, il aimerait ça.
Mais engagez-le, Colis.
C'est une légende canadienne.
Engagez Rick Moranis, s'il vous plaît.
À tout moment, il peut partir s'occuper de ses enfants, par exemple. Ouais. Fait que, là,
c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est pas fiable. Ouais.
Mais en tout cas, on apprend dans ce film-là que si on va au camp d'été de science, ça nous permet de savoir que dans les bananes, il y a du potentiel, et on peut sauver notre ami qui a très mal au ventre. Parce qu'il manque de potassium.
Moi, j'ai eu trop de potassium, j'ai eu très mal au ventre.
Ben, on guérira avec des bananes.
Full circle.
C'est la zone entre Mathieu et Chérie, je nous ai réduit.
Cette fameuse zone.
Il faut boire une bière un lendemain de brosse.
Ben, sinon, je ne vous ai même pas présenté quel mauvais animateur je fais. On créerait Julien Bernatchez.
On s'ajuste.
Personne ne sait on est qui.
J'écris des petites présentations. Je dis, il nous a donné l'eau à la bouche cette semaine avec sa vidéo de lui qui sort de l'eau sur la plage. Étienne Forêt, t'es avec nous. Comment ça va, Étienne?
Ça va très bien. Et là, j'en profite maintenant que tu me lances cette balle. Je la saisis au bon.
Oh!
Pour rectifier les faits, là, Julien Bernatchez, qui a décidé de s'octroyer la première et la deuxième place du top des plus beaux hommes de Décideret.
Incroyable.
Ça, aucun rapport.
Incroyable.
Okay. Premièrement, ça se peut même pas avoir deux positions en même temps. Ça n'a pas de sens. Je viens réclamer un recomptage. Et je décide... À partir de maintenant, et si personne ne me contredit pendant l'émission, ça va être un fait et ça va être réglé, là, je décide qu'à la première place se trouve moi, Guillaume, Mathieu, Maxime, Nicolas, Murphy, tous ex-éco, et à la 12e place, Juliette.
Ouh.
Les places 2 à 11 sont libres pour l'instant. Peut-être qu'il y aura d'autres membres éventuellement qui se joindront à l'équipe.
C'est pour le futur. C'est comme. C'est ça. C'est des places qui restent à.
Qui restent à signer.
Fait que si Julien appelle pas d'ici la fin de l'émission, ouais. On vous rappelle qu'il est, il est quelle heure en France?
2h du matin.
Non, c'est sûr qu'il est. C'est sûr qu'il dort.
Non. On enlève cette condition-là. Là. C'est déjà décidé.
OK, parfait. On prendra pas de chance.
Puis je suggère même qu'on mette Étienne plus haut que la première position.
Ah, oh, je suis d'accord.
Parce que c'est vraiment notre
position. Mais moi, j'étais déçue.
La position zéro, tu sais.
Quand je t'ai vu sortir de l'eau, oui, Étienne zéro. Mais non, pas zéro.
Mais c'est comme sub-zero.
Puis en même temps, commencer à compter à partir de zéro, en tant qu'informaticien, ça me parle.
Ah! Oh.
Oui, exact. Fait que t'as la position zéro, fait que t'es l'absolu, dans le fond. Je sais pas comment on peut appeler
tout
ça
est dans
en
tout.
Langage informatique, mais...
Allons-y avec ça.
Puis après ça, on est tous les un. Puis Julien, il est en dehors du langage binaire. T'sais, c'est un...
C'est qui a dit... c'était vraiment beau. Je pensais que c'était Maxime.
il y a quelqu'un qui a dit ça.
Ta photo, tu sors de l'eau?
Oui.
Moi, je me demandais où était ta petite bouée rouge, Étienne. J'étais bien déçu.
J'avais pas de bouée, malheureusement. J'avais seulement le maillot de bain. Mais fun fact, c'est un maillot de bain, non pas de Baywatch, mais de Stranger Things.
Oh!
Mais très, très. Tu nous en reparleras un peu plus tard.
Oui.
J'espère que ta chronique est là-dessus.
Ensuite, c'est juste là-dessus de ce que je parle tout le reste de la saison.
son petit maillot. Ensuite, c'est la bienveillance incarnée emballée dans un saut de cousu de ses propres mains. Oh! Linda Lisa!
Linda. Mais là, je ne suis pas en bienveillance aujourd'hui parce que je suis un peu en tabarnak contre ma banque.
La banque.
Je vous raconte. Moi, je suis chez Tangerine depuis des années, que j'aime bien, mais là, eux, ils fonctionnent juste, évidemment, ils n'ont pas de succursale. Ils fonctionnent par photo-chèque pour déposer des chèques.
OK.
Et là, moi, je reçois, quand je fais des pubs ou des contrats UDA, je reçois un paiement, un chèque qui est adressé à moi, mais comme in care of mon agente puis l'adresse de mon agente. Et là, Tangerine a décidé que ça ne fonctionne
ça
plus.
Ça marche pas.
Je suis une criminelle. Je ne peux plus déposer mon argent dans mon compte. Alors là, je magasine une autre banque, donc j'attends vos conseils parce que je suis en tabarnak.
Ah oui, c'est vraiment pas.
Et le problème ne se règle pas.
Il y a rien qu'on peut faire. Ils peuvent rien faire pour toi.
Ben, la compagnie qui fait le chèque, j'attends de voir s'ils peuvent faire un changement, mais Tangerine ne peut rien faire.
Elle, genre, c'est comme s'il y a un autre nom que le tien en plus.
C'est
du
terminé.
Tien.
Je dis, ça fait des années que je dépose des chèques sous cette forme-là. Je suis une bonne cliente. Tout ça n'a aucun poids pour Tangerine. Donc, je les envoie formellement chier. Et je cherche une nouvelle banque qui est bien accommodante. Fait que faites-moi vos suggestions. Où est-ce que vous êtes?
Où êtes-vous? Qui vous fait le moins chier? Ça, c'est... Puis pourtant, j'étais tout le temps satisfait. Mais j'ai jamais reçu de chèque avec deux noms.
C'est nouveau, là. C'est nouveau, cette réglementation. Ouais. Puis il n'y a rien à faire. Genre, j'ai parlé aux gérants du gérant. Ils sont comme non.
Moi, je veux juste m'adresser directement à Tangerine. Ouais. Hey, Tangerine, tu laisses Linda tranquille, tabarnak. OK? Parce qu'il va faire chaud en tabarnak tantôt, OK? OK, bon, ensuite, il nous a appris que son amoureux, Rui, pond des œufs comme tous les Portugais. Guillaume est avec nous.
C'est exact.
Alors, bien, j'ai bien compris.
Oui, c'était ça, je pense qu'on avait dû. Là. C'est une autre affaire qu'on a décidé.
Dans le lore.
Pond des yeux.
Personne n'a appelé pour contester.
Exact, fait que là, on a comme décidé que c'était ça les règles. On n'en parle plus.
Pondre des yeux.
C'est un autre layer.
Moi, je suis avec Desjardins, mais c'est juste par nostalgie, parce que tu sais, j'ai le même folio depuis que...
moi aussi,
ouais, exact.
Okay.
Fait que je suis comme, on dirait que je suis pas capable de sortir de ça.
C'est un peu pour genre, ça
que jamais été,
j'ai l'impression que je vais tuer l'enfant en moi si je ferme mon compte Desjardins.
C'est un peu comme pour ça que Desjardins est dans les écoles primaires, parce qu'il n'y a aucun esti de rapport quand tu penses à ça.
Ouais. Ben, c'est pour apprendre aux enfants l'économie.
Oui, pour apprendre aux enfants.
C'est comme un peu. Tu sais, moi j'avais lu la bande dessinée sur Alphonse Desjardins.
Oui, moi aussi j'avais lu ça.
Hey,
c'est bon, là, c'est bon. Oui. Il y a de l'action.
Puis c'est comme toute sa vie, il meurt à la fin, je pense que c'est comme, c'est doux, là, avec sa blonde, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, sa femme.
Madame Desjardins.
Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il y a son portrait à Rivière-Honneur dans la Caisse populaire, il y avait le portrait d'Alphonse et de sa femme aussi, là, puis là, c'est poche, je ne me rappelle plus son nom. Mais en fait, puis là, je saute du coq à l'âne,
oui.
Parce que tantôt, ton histoire de Gal.
Bon. Pendant qu'on n'était pas en nom.
Ben, je me demande si je vous ai déjà raconté cette anecdote de mon enfance où j'ai eu une... Ben, c'est pas une gale, mais c'est une verrue. Ah.
J'avais un espoir que tu parles de France Gall, mais non.
Ben, j'aime beaucoup France Gall.
On parlait de Denise Verrue.
Connaissez-vous la carrière allemande de France Gall, où elle chante des chansons en allemand?
Non!
Il y a une chanson, c'est...
Der
Computer, Number Drive.
Voilà.
Très bonne, cette toune-là!
Je l'adore.
De Richtige Boy. En tout cas, bref, très bonne toute. Puis, mais il y a aussi la chanson Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. C'est un peu français, un peu allemand.
Ah.
Fait que, ben, un peu c'est ça. Donc, un peu Goethe, un peu Bonaparte. Je la trouve très cute, très bonne toune.
J'ai réussi à dévier les verrues.
Dévier les verrues.
Oui.
Mais parlant de Gal, je pense à Véru, qui dit Véru, dit « Connaissez-vous, est-ce que je vous ai déjà parlé de Sœur Fernande? »
Non.
Non. Non,
mais j'aime déjà cette anecdote.
C'était une professeure, c'est une des dernières religieuses qui a enseigné comme à l'école secondaire à Rivière-Nord. Mais je ne sais pas si c'était comme... En tout cas, bref, elle enseignait là, puis c'était une religieuse, puis à un moment donné, elle est partie à Rimouski, dans le couvent à Rimouski, j'imagine, je ne sais pas ce que... finir ses jours de religieuse. Mais ça, Fernande, la face, c'est que son don, c'était d'enlever les verrues. Puis,
son don de sœur.
Son don de sainte.
De vie.
Parce que, tu sais, elle devrait être canonisée.
Oui, à cause qu'elle enlève les
verrues. Parce qu'elle a fait des miracles. Fait des miracles. Exact.
Wow.
Ben, avant sa mort, elle en a fait.
Il faut qu'elle en fasse après pour être canonisée, c'est ça l'affaire.
Oh. Ah.
C'est ça qui rend ça très difficile.
Ben, en même temps, c'est dur.
Déterminé, là.
C'est sûr quand ton talent, c'est d'enlever quelque chose. Fait que, tu sais, tous les gens qui n'ont pas eu de verrues, est-ce que c'est grâce
si
à...
Si, mettons, toi, t'en as, puis tu l'as pris, puis que ça te l'enlève, là, tu pourrais dire, et voilà, c'est une
verrue. Ah. OK.
Là,
ben,
que ce soit le Vatican qui
Mais c'est parce qu'elle est tellement bonne, j'ai jamais eu de verrues après ça. Avez-vous déjà eu des verrues?
Oui.
Oui?
Oui. Oui.
Jamais eu ça.
Jamais eu ça. Moi, juste une fois. Moi, j'étais sur le bras ici, puis j'étais dans un... En fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, ça faisait longtemps qu'elle a enlevé les verrues aux gens. Puis là, je vais vous expliquer comment dans pas long.
Oui, c'est ça que j'ai hâte de savoir.
Parce que quand j'étais jeune, à un moment donné, en fait, là, ça faisait longtemps qu'elle avait pris sa retraite de professeur, puis elle était au couvent à Rimouski. Puis moi, un été, je suis allé au camp de jour pour apprendre l'anglais, John Hogg McDonald. C'était comme un camp de jour.
C'est bon, Johnny. C'est nos billets de 10
C'est ça, c'était cute. Puis j'ai plein d'histoires à raconter sur aussi ce camp de jour-là, parce qu'il y a eu un épisode d'hystérie collective assez mémorable dans ma vie. Mais je vais pour l'instant parler de Sœur Fernande, parce qu'en fait, mes parents, après le camp de jour, se sont dit « Ah, ben il y a encore sa verrue, on va l'amener voir Sœur Fernande, et Tarimouski. » Fait que là, on lui a dit « Salut », elle est sortie dehors, elle a jasé un petit peu avec mes parents, puis après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a frotté sa scène. C'est trop là-dessus. Mais elle a frotté une scène noire.
Une scène de sœur.
Elle a frotté sa propre scène.
Ça sonne bien noir.
Oh my god, comment je fais ça? Sainte vierge.
Ouais, ouais.
Ça n'a pas de crise de bon sens.
C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas sainte.
La petite scène de sœur. C'est sûr que ma verrue pousse demain.
N'hésitez pas à faire vos meilleurs mimes de la petite scène noire de sœur Fernande.
Qui se frotte ses verrues.
Pauvre, elle était tellement fine.
Ça la rend pas moins fine, au contraire.
Oh my god, elle est très fine.
Apportez-moi vos enfants pleins de verrues.
Oh my god, je me remettrai jamais de ça, mais j'adore. En tout cas, elle a pris une petite scène noire, non pas sa propre scène.
Oui.
Et elle l'a frottée sur ma verrue.
Mais ça, théoriquement,
c'était cute l'histoire au départ!
L'image est parfaite.
My god!
Est-ce qu'elle prononçait des mots magiques?
Non, non, elle fait juste.
Elle a juste fait ça. Mais...
Elle l'a juste frotté un petit peu.
Okay.
Elle l'a pitché dans le gazon. Puis elle a dit, pense-y plus.
Okay.
Puis deux jours plus tard, j'avais plus de verrues.
Wow.
Wow.
Ah ben ouais, fait que ça a marché. Ça a la
flemme dans le gazon.
T'as-tu réussi à plus y penser?
Dans le gazon.
Oui. Puis c'est pareil que c'est la clé hein, de plus y penser à la verrue parce que ma collègue au cégep. Ben justement, elle et sa sœur, quand ils étaient jeunes, avaient chacun une verrue sur l'orteil.
Oh.
Puis ils sont allés voir quelqu'un qui enlevait les verrues. Puis qui a fait à peu près le même principe, qui leur a dit « La verrue va partir si tu la regardes plus. »
Ils sont-tu rentrés comme l'orteil dans la scène du guérisseur?
Je sais pas.
Dans le fond, c'est peut-être juste le cuivre qui
Je verrues. Sais pas s'il a frotté une scène noire sur les verrues. Sauf que l'affaire, c'est que ma collègue, elle a réussi à pas regarder sa verrue, mais pas sa sœur. Puis sa sœur a gardé sa verrue, mais elle a sa verrue disparue.
Wow, c'est très biblique, là, ça, comme genre de...
Très.
Ben, écoute, il y a quelque chose dans les verrues que tu fais que... Si on enlève tout l'épisode sur la scène...
C'est pas possible. Mais
ça, c'est la seule chose que je retiens.
Ça ne sera pas possible, Guillaume.
Ben, écoute, c'est comme. Écoute, faut. C'est ça dans la vie. Je dis des affaires, là, puis ça va juste.
Au resto de la famille en Suisse, il y avait le numéro sur un frigo. Il y avait le numéro d'un gars que si tu saignais ou tu te brûlais, tu l'appelais. Puis ça guérissait plus vite.
Ça, j'ai déjà entendu ça aussi.
Ouais. Ouais.
Comme un genre de fou du village.
Il fait une affaire à distance, puis là, il arrête le sang.
Oui, oui, oui.
Oui, on dit tout virer fou, calice.
Eh bien. J'ai une amie qui est conseillère parce qu'elle communique avec les animaux. Puis elle peut le faire à distance en regardant une photo de ton animal.
Wow.
S'il y a un problème, elle peut entrer en communication avec l'animal
Jean
juste avec une photo.
Là, calme-toi.
Non, c'est pas le même. C'est que l'animal lui dit.
C'est quoi son problème, genre?
C'est quoi le problème? Puis d'habitude, c'est plus par rapport au propriétaire, tu sais, qu'il le traite mal ou qu'il pense pas, ou etc.
Ouais. Puis entre autres
affaires qu'elle a faites. C'est une madame qui avait un chat, puis elle la connaissait pas. Là. Elle est allée le voir, elle a checké le chat, elle a communiqué avec le chat, puis elle a dit à madame, « Est-ce que vous avez comme un ex-amoureux qui vient faire des tours des fois? » Puis elle était comme, « Oui! » Elle dit, le chat l'aime pas bien. Ben, oh! Le chat trouve que vous êtes un petit peu trop...
Il méritait mieux que ça.
Vous passez trop à votre wow. ex. Tu sais, puis il n'y a pas une bonne place dans votre vie, puis votre chat s'inquiète pour vous.
Oh!
Wow.
Wow.
C'est très spécifique.
Oui. Oui. Ben, il a aussi dit, ben, descends la litière au rez-de-chaussée, elle n'aime pas son montant.
Oh, wow.
Bon, là,
j'adore.
C'est
show-related.
Il y a ça qui se passe à distance.
Elle s'en passe ses affaires en introduction.
Sur cette note ésotérique, Guillaume, ça te tente-tu?
Ça te tente-tu? Si ça me tente. Ça,
ouais.
Mais ça, te ça dépend de quoi, parce que là, je ne veux pas dire des niaiseries. Ah ouais. Encore.
Guillaume, montre-nous ta scène. Let's go, mon Joe!
Puis je vois non loin de moi un garçon qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami.
Guillaume, de quoi tu me parles aujourd'hui?
C'est un peu volé le... Ah. On s'est mis à faire, c'est exactement volé de Terumen Chase Dog. Étienne pourrait éventuellement me poursuivre.
Absolument, pour je compte
ce
bien.
Vol de concept-là. Puis,
La mise en demeure est déjà en chemin.
Mais là, je l'avoue. Que ça s'inspire de ça.
Fait que faut t'avouer à demi-pardonner.
Exactement. Fait que je pense que, tu sais, on s'en parlera plus tard.
Mais là, attends, le soupir de bonheur appartient pas à Terre Human
Chase. Oui.
Je pense que ça fait longtemps que l'humain fait
ça. Si c'est répété plusieurs fois, là, au même moment, après une toune, tu sais, il y a quelque chose qui fait que...
En début de chronique, oui.
Ouais, bien vu à...
Regarde, je ne me pas là-dessus parce qu'on a un choix à faire, mais on s'en reparle après l'émission.
Moi, je me sonne à la main de mes avocats.
Connaissez-vous vos homonymes, hein, des gens qui s'appellent comme vous?
Moi, j'en ai à peu
j'en
près pas.
J'en connais une, puis c'est une tabarnak.
Oh
non!
No!
Non, c'est pas vrai.
Oh my God,
non,
t'sais,
j'en connais une pour vrai. J'en connais une pour vrai, oui.
Okay.
C'est une compositrice de musique, j'imagine, classique. Puis,
oui, quand on cherche ton nom, on tombe
ben,
sur elle.
Oui, puis son site était plus actif, puis j'ai demandé si je pouvais avoir le nom de domaine, puis elle m'a dit non.
Ah, ben, fait que c'est une tabarnak pour vrai.
Finalement, oui,
un peu,
non,
là.
Mais...
voilà.
Linda!
Ouais. Rui aussi, il y a comme un autre, Rui Silvera, qui est photographe aux Açores, puis qui a, je pense qu'il y a un nom de domaine ou quelque chose de même aussi, puis que là, Rui, il peut pas entrer en contact avec lui.
Ouais, ouais.
Il s'est fait une idée. Mais moi, j'ai quelques homonymes, parce que
ça
Guillaume Dupuis, peut-être que Linda Bouchard aussi, ça peut être fréquent, je ne sais pas à quel point, mais Bouchard...
Ben, c'est plus des dames qui vont être, mettons, dans la cinquantaine, soixantaine, à un point tel que, mettons, tu sais, je vais à la pharmacie, puis je me fais faire une prescription, le pharmacien va faire comme... C'est quoi votre date de naissance? Oui, oui, je suis Linda, née dans les années 80.
Ah,
revenons-en.
Oui.
Mais il y a eu un boom de Linda au milieu des années 80, mais je pense que c'était des anglophones, en fait, parce que moi, j'étais toujours la seule de ma classe.
Oui,
c'est
vrai. C'est mais j'avais une amie chilienne quand j'étais petit qui s'appelait Linda.
Ah oui!
On la salue. C'était aussi populaire chez les immigrants chiliens.
Peut-être.
Mais, malgré tout, j'ai quelque chose à dire sur les Guillaume Dupuis, parce qu'il y en a vraiment pas mal quand même. Là, quand
sont-ils nice, en règle générale?
Je pense que oui. Je les connais pas. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés, puis je peux vous le dire. Entre autres, par exemple, Guillaume Dupuis de Gaspé, qui a mon âge exactement.
Wow,
puis qu'on était tous les deux, on était à 20 minutes de distance de voiture, mais on s'est jamais vraiment parlé. Je pense pas que j'y ai déjà parlé à ce gars-là. Mais on était tous les deux inscrits au judo. Ça fait que quand on participait à des compétitions régionales, ben, il y avait toujours Guillaume Dupuis. Puis là, il nommait le nom de notre père pour nous différencier.
Ah,
voyons, c'est
fait que, lui, c'était Guillaume Dupuis Magellan. Moi, c'était Guillaume Dupuis Charles-Auguste. Fait que là, il y avait cette grande différence. Mais je ne l'ai jamais connu, fait que je ne sais pas si...
Deux c'est un fils gars... d'explorateur.
C'est comme un prérequis.
C'est Guillaume, pareil. Mais c'est un gars blond, sportif, donc on est vraiment très différents. Mais je me suis dit que... Ben, c'est pas ça. Ben, j'ai marché beaucoup cet été. Hein?
Ah,
j'ai fait plusieurs pas.
Tu vois?
Parce que j'ai voyagé. Fait que je suis un peu sportif, finalement. Là,
oui.
C'est ça. J'ai décidé de faire un petit top 5, en fait, là, des Guillaume Dupuis étrangers. Des meilleurs Guillaume Dupuis,
je trouve. On va numéro 5?
Numéro 5, oui, si vous voulez. On peut commencer immédiatement par le numéro 5.
5!
Alors, en cinquième position, j'ai décidé de mettre le Guillaume Dupuis qui a voyagé en Israël en 2015. Parce que je trouve ça drôle, parce qu'un de mes meilleurs amis, c'est Israël Trudel-Denis. Et quand je suis tombé sur cet article-là en 2015, j'ai automatiquement pensé à lui en lui disant « Regarde, un article sur nous deux!
Oh. »
Fait que c'est un article de la presse qui s'appelle « L'Israël » avec Guillaume Dupuis. mais malheureusement, bon, la seule trace qui reste de cet article-là, c'est en fait le post que j'ai fait sur la page Facebook d'Israël en 2015 où ce que j'ai dit « Regarde! » Puis finalement, quand on clique dessus, l'article n'est plus disponible.
Oh non!
Fait que là, on ne peut pas lire ce qu'il a fait, mais il y a des photos de lui, de Guillaume Dupuis, qui voyage, puis il est comme habillé en... en explorateur des régions désertiques là, avec des pantalons bouffants
des couleurs pâles.
Il y a quelque chose là-dedans qui est assez fascinant. Fait que je l'imagine en cinquième position.
Les Touaregs. Je pensais pas que les Touaregs allaient se misser dans cette chronique.
un peu à la Touareg. Donc,
toujours les attendre dans le détour.
Ben oui, c'est ça.
Il faut que je me retienne pour pas sauter d'un sujet à l'autre sans arrêt parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Là, je peux pas parler des Touaregs.
C'est pas le temps.
Parce que là, je suis en train de faire un top 5. Là, c'est mon top 5. Quatrième position.
Numéro 4!
J'ai décidé de mettre l'haltérophile, Guillaume Dupuis. C'est quelqu'un qui avait, selon un article de la presse, 30 ans en 2008. Fait qu'il y a à peu près...
45 ans.
Ouais, c'est ça. Il y a 7 ans de plus vieux que moi. Donc, fait que c'est un haltérophile. En fait, donc, dans l'article de la presse, on parle de la relève de l'haltérophilie au Québec. On apprend que Guillaume Dupuis fait 5 pieds 10 pouces, pèse 255 livres. C'est je ne suis pas si loin de tout ça, tu sais, dans le fond.
Guillaume?
Oui?
Haltérophile, là, ça veut dire en même temps quelqu'un qui aime beaucoup les haltères.
Il a capote. Ouais.
C'est pas ce qu'on dit. Quelqu'un qui tripe sur son sport. Oui, c'est ça qu'on dit, mais je réalise que ça a comme une double signification.
L'haltérophilie, c'est comme la pédophilie des haltères.
Oui, c'est ça, genre, j'aime beaucoup les haltères. Pensez-vous qu'il doit avoir ce kink-là quelque part?
Ben, il doit avoir la pédo-haltérophilie quand tu aimes juste les petits bois.
Non, mais attends, moi, j'imagine quelqu'un sur son profil Tinder qui est écrit « Je suis haltérophile », puis là, ça fait comme « Ah, il va être musclé, mais finalement... »
Il va juste se frotter avec
lui. Il
se
frotte
en aimant ses
joues. Tu les haltères ou quoi?
Bench puis bande.
Bench puis bande. Ça a l'air d'un genre de podcast.
On est rendu là, je pense, dans le monde des podcasts de masculin.
Benché et bandé.
Au début de ma cinéphilie, j'étais très fan de David Cronenberg. Puis il y a un de ses films qui s'appelle Dead Ringer, mais en français, ça s'appelle Alter Ego, comme l'expression quelqu'un qui a un alter ego. Hein?
Ouais.
Puis je l'avais demandé au club vidéo à Gaspé s'il l'avait. Puis là, la fille qui travaillait au club vidéo, elle comprenait mal ce que c'était, dans le fond, le titre. Puis là, je disais alter ego. Puis elle disait comme des alter égaux. Puis là, j'étais gêné parce que j'étais très gêné à l'époque. Puis là, j'étais gêné parce que je me disais peut-être qu'elle pense que j'aime les alters puis que je suis un sportif qui veut voir des cassettes de sport. Puis là, j'étais comme non, ça, c'est pas moi, c'est un film avec deux jumeaux qui sont chirurgiens. Puis là, ils sont en amour avec Geneviève Bigeau. En tout cas, donc, c'était ça mon cri du cœur. Bon,
j'imagine le petit Guillaume anxieux à cause de...
j'haïssais, même si c'est comme ça aurait pas été grave tant que ça qu'elle pense ça, mais j'haïssais être comme mal compris le monde pense que je suis quelqu'un d'autre.
Moi, j'ai une anecdote beaucoup traumatisante. On est allé au secondaire à un enregistrement de télé de TNM, le canal des CNM, le canal des nouvelles modifiées Martin Petit dans le temps. Puis là... Tu sais, il y a les moniteurs.
Ah, les Gingras Gonzalez.
Ouais, l'après Gingras Gonzalez. Là, il y a les moniteurs en haut. Puis moi, j'étais là, puis pendant une pause publicitaire, ben les pauses, ils jouent pas dans les moniteurs, tu sais. Puis moi, j'ai voulu faire une joke à l'animateur de foule, puis j'ai fait comme « Hey, pouvez-vous nous montrer les pubs, tu sais? » Puis là, tout le monde a ri de moi, tu sais. Oh. Mais moi, c'était un gag là, que je faisais, là, très conscient.
Tout le monde
pensait que c'était toi. Puis après ça, tout le monde faisait «
Ah non! »
Je disais « Non, mais c'était une joke, c'était une joke, là. Hey, j'en suis encore mal.
Je comprends, ça me stresse. Là. J'haïs ça. Ben, j'aime mieux ça maintenant, mon anxiété, maintenant que je suis un adulte. Donc, ce Guillaume Dupuis-là, à 25 ans, a décidé de devenir bodybuilder. Il l'explique dans l'article. J'ai commencé un entraînement. Un jour, je me suis imaginé en petit maillot devant des centaines de personnes à montrer mon corps. Fin de la citation.
Ça, c'est
dans l'article. Le lendemain, c'est en apercevant Hugo Girard tirer un train dans un championnat mondial qu'il a finalement décidé de se lancer dans l'aventure. Donc, je trouve ça très inspirant comme histoire. Fait que je pourrais...
Bravo, Guillaume.
Je me dis que tous ces homonymes-là, en fait...
C'est
toujours un train avec Hugo Girard. C'est ça, pour la vie, pour devenir Guillaume Dupuis. Puis je me disais, c'est comme des versions de moi un peu, comme qu'est-ce que j'aurais pu devenir? J'aurais pu devenir Guillaume Dupuis, l'haltérophile, qui va louer le film Alter Ego, le vidéo à Gaspé. Alter et Go!
Les joueurs de Go qui font des...
Exact, c'est ça.
Le Go Curl en même temps.
Exact. Troisième position.
Numéro
3!
Guillaume Dupuis, peintre décorateur. Oh. Celui-là, c'est intéressant parce que je l'ai déjà rencontré. Parce que j'ai travaillé à la Boîte Noire pendant...
Est-ce que t'as déjà peint du décoré?
Non, il m'a jamais peint, il m'a jamais décoré. Ni l'un ni l'autre. C'était un client de la Boîte Noire dans le temps. Puis j'avais déjà remarqué que son site web existe parce qu'il y a guillaumedupuis.com et c'est sa page de peintre décorateur. Et il y a quand même un CV assez impressionnant. Donc, on parle de sa fiche académique, là, c'est sa biographie sur son site web. Le parcours professionnel et sa fiche académique académique impressionne, mais ce qui provoque l'admiration autant pour Guillaume Dupuis, c'est sans conteste les fruits de son art. Faux bois et faux marbre, patines chiffonnées, répliques du ciel toscan ou trompe-l'œil subtil. Quel que soit l'effet recherché, le résultat est toujours confondant. Ah. Après trois, c'est-tu beau? Oui. Bon, oui, c'est ah, comme oui, un c'est gars bon? Qui a, dans le fond, qui restaure des églises avec du marbre. Là,
j'ai vraiment jugé que ça serait laid.
Ah, oui, t'as pas hésité.
Ben, tu iras checker, tu me diras ce que t'en penses.
Non, non. C'est très laid.
J'ai pas du tout assez de connaissances pour comme juger vraiment de son travail parce que.
Mais c'est, moi, c'est, pas c'est très personnel. Hein.
Ben, oui. Oui, c'est ça. Faudrait que je réfléchisse un peu plus puis que j'aille.
La semaine prochaine, vous entendez la critique de Guillaume sur Guillaume.
Moi, je vais me renseigner, je vais lire tous les livres sur le marbre. Deuxième position.
Deux!
Le Guillaume Dupuis, deuxième position, j'ai échangé un courriel avec lui parce que il enseigne depuis l'automne dernier au cégep de Saint-Laurent, comme moi. Ah. Sauf que lui est un professeur de tuba.
Ah, ben.
J'ai déjà joué du tuba.
Ah!
En secondaire 2.
Aïe, aïe, tout est dans tout.
Dans l'harmonie du collège.
Ça marche parce que là, Guillaume Dupuis joue du tuba. Là, je m'appelle Guillaume Dupuis, je suis à côté de toi, tu as déjà joué du tuba.
Je me rappelle encore du doigté de la gamme.
Est-ce que c'est la définition de quelque chose qui marche? Je ne suis pas certaine.
On devrait faire... Est-ce que tu penses que ça ne marche pas ce que je viens de dire?
Je pense.
Non, mais pas dit, c'est comme tout.
C'est exactement une chose qui marche.
Ça marche comme je ne vois pas ce qui ne marche pas là-dedans. Là, on s'en parle plus tard.
Ça marche au point que je ne vois pas ce qui ne marche pas.
Oui, c'est ça, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Donc, le tuba, super. Puis je me suis dit, je vais le mettre deuxième position parce que. C'est intéressant d'imaginer ma vie. Quelle aurait été ma vie si j'aurais été joueur de tuba et que j'avais eu quelqu'un d'autre qui s'appelle exactement pareil comme moi puis qui jouait aussi du tuba dans la même ville. Mais Guillaume Dupuis, je l'ai juste mis deuxième parce qu'il m'a quand même... tu sais, l'affaire au cégep, en fait, pour faire les adresses courriels, c'est que d'habitude, c'est la première lettre de ton prénom et ton nom de famille. Puis il y avait déjà quelqu'un dans le cégep qui s'appelait Gilbert Dupuis. Fait que lui, il y a eu G. Dupuis. Et moi, j'ai hérité de Gu Dupuis.
Gudu?
Oui.
Chris, je suis sûr que je t'appelle Gudu à partir de
maintenant. Gudu. Fait que là, depuis ce temps-là, à chaque fois que j'en parle, tout le monde est comme... Des fois, j'en parle aux étudiants en joke, je suis comme, ben oui, c'est moi, Gudu. Puis là, tout le monde, personne rit finalement, parce que je vais jamais rire les étudiants.
Si t'étais BDiste, faudrait que tu t'appelles Gudu.
Gudu.
Ça me semble comme un nom de BD.
Mais c'est parce que c'est un peu horrible à cause du « du », tu sais, qui est un peu, tu sais, avec l'accent québécois africanisé, là, tu sais, le petit
« la distongue ».
Fait que là, ça fait que, tu sais, Gudu,
c'était français, ça.
Gudu! Bon, c'est ça.
Si j'étais Gudu, ce serait super.
Gudu nous a fait une bonne bande dessinée.
À l'université, les adresses e-mail, c'était les 6 premières lettres de ton nom de famille et les 2 premières lettres de ton prénom. Puis j'avais un collègue qui s'appelait Sylvain Croteau, fait que lui, ça faisait Crotteasy. On a bien ri de lui tout au long du bac.
Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je veux dire, il faut que les gens qui travaillent dans des centres de technologie comprennent que tu sais, tu peux pas faire comme des agencements de
non,
lettres,
ben,
ça veut rien dire.
Ben,
notre ami de Valleyfield, David Montpetit, sur ses cartes, c'est écrit démon, là.
Ah,
ça, c'était quand même cool.
Bon. Ah, ça, c'est nice.
Je vais me faire la gardienne du temps.
Oui, ben,
c'est déjà
c'est
au
top 1.
Top 1. Oui, OK. Ben, c'est juste, je veux juste dire que Guillaume, l'autre Guillaume Dupuis qui est arrivé après moi, lui, il y a eu Guy Dupuis, tu sais, en commercial. Fait que ça aurait été mieux pour moi. J'aurais plus aimé ça que Gudu. Mais trop tard, j'aurais jamais rien de ça. Donc, en première place! En première place, on a quelqu'un de qui a quand même là, un parcours assez impressionnant parce qu'il a été nommé Mr. Rubber Montréal en 2018.
Mr. Rubber!
Ainsi que Mr. Rubber International en 2022.
À cause des pneus ou des condoms?
Non, parce qu'il adore le cuir.
OK.
Et c'est quelqu'un qui fait des concours de gens qui ont le fétiche du cuir. Donc
c'est dommage. Mais rubber, cuir, c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc, hein?
C'est du caoutchouc, mais d'habitude, rubber dans le milieu... là, je ne sais pas, je dis pas n'importe quoi. Là, comme l'affaire de la double pénétration, puis que là, tout le monde arrive. C'est... Là, attendez, là. Mr. Rubber, c'est comme, tu sais, le rubber, c'est d'habitude le kink avec, c'est pas juste du caoutchouc.
C'est
tout ce qui est PVC, tout ce qui est. Là, je dis pas n'importe quoi.
Ouais.
C'est vinyle.
Les matières plastiques.
Il fallait que je réfléchisse, là, j'ai un moment de panique.
Les matières plastiques extensibles.
Ouais, fait que c'est ça, c'est des matières extensibles qui sont très populaires dans la communauté LGBTQ+.
Okay.
Mr. Parce que c'est ça, c'est comme c'est serré, c'est doux, ça moule le corps, etc. Donc. On voit à peu près là, qu'est-ce qu'il fait.
Puis lui, c'est Mr.
Julien,
Rubber,
Julien il aime ça, c'est sûr.
Oui,
on en parle souvent.
Julien, il écoute même pas, puis il est bandé.
Ben justement, il serait content peut-être qu'en ce moment, il est bandé. sans nous écouter. Puis peut-être qu'il dort, puis là, il y a comme une érection spontanée
mais
pendant son sommeil.
Pas, parce que...
Non, ça, c'est ça.
Julien, à la place que ses oreilles cils, c'est comme c'est lui qui... Bon. Voilà. Fait que je l'ai mis là parce que, tu sais, en général, quand tu fais des recherches sur Google, c'est pas mal lui qui apparaît en premier dans Google Images. C'est vraiment le Guillaume Dupuis le plus populaire.
Oh.
Puis aussi, ben c'est ça, il y a des prix incroyables, là. Mr. Rubber International, tu sais. Moi, j'ai pas de prix international dans la vie, là.
Oh, moi non.
Lui, oui. Puis c'est un Montréalais, il a mon âge, on a des amis en commun. Tu sais, il y a comme un... Mais c'est vraiment comme un miroir. Je me sens un peu comme Toto le héros, hein, le film sur le voisin qui a été échangé avec quelqu'un d'autre. Lui, il a la vie, en fait, là, que je n'ai pas eue.
C'est vrai.
Il devient une vedette internationale qui tripe sur le cuir. Hein. Oui, c'est ça. Ben, le cuir, le rubber,
le
PVC.
C'est Guillaume, ça.
Fait que oui, c'est ça, c'était ma grande sélection de Guillaume. Ça a pris vraiment du temps. Écoute, on est déjà à 34 minutes,
une
seule chronique.
Puis Miguel Deplante dit, on peut lire la définition de plusieurs kinks différents dans le petit rubber.
Oh,
là-dessus, on y va avec Linda Pizza.
Ah, wow.
Linda, Linda, ma Linda. Linda, Linda, I love you. The magic of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through.
Voyons, trop d'éléments. Trop d'éléments. Alors, moi, je vous fais des petites suggestions de lecture. J'ai fait des lectures cet été, mais évidemment, rien de léger, hein, parce que je lis pour le travail. Donc, j'ai retenu ce que j'avais même aimé le plus lire dans les dernières semaines. Je sais, est-ce que cette caméra-là est ouverte? Je suis déstabilisée.
Oui, ben oui, c'est bon.
On le voit devant nous.
Oh, Seigneur! Alors, on commence avec un roman qui est un classique. En fait, c'est sorti en 1995-96, je crois, mais quelqu'un l'a demandé à la bibliothèque à la BANQ pour les gens qui ne voient pas.
Ah, c'est comme ça que ça marche, c'est par demande.
C'est surtout par demande. Ouais. Il y a des nouveautés qui sortent, mais aussi des demandes, des demandes populaires.
Attends, est-ce que ça veut dire que ça reste dans les archives de la bibliothèque, puis il y a d'autres personnes qui peuvent emprunter ton
Absolument.
Roman audio? Fait que moi, je pourrais t'écouter?
Non, tu pourrais pas parce que c'est réservé exclusivement, je dis dans la narration, aux gens qui ont, je trouve ça horrible, mais on dit une déficience perceptuelle. Je comprends pas qu'on dise encore
ça. Tu le dises?
Oui, il faut que je le dise. Okay. Dans la présentation du livre, dans le document audio. Donc, je dis que c'est réservé à ces personnes-là. Vous et moi, je ne peux même pas m'emprunter moi-même.
C'est de la censure,
moi-même. C'est de la censure.
C'est pour leur laisser plus
la
chance de l'avoir.
Inversé.
C'est censure, comme quand tout le monde prend le menu végétarien, là, tu sais, puis là, les végétariens, ils n'ont plus de burger végétarien, finalement.
Mais c'est ça.
Puis ils font dur, ils peuvent rien manger d'autre. Pensez-y.
Alors, un roman d'espionnage que j'ai aimé. C'est la première fois que je lisais de la littérature d'espionnage et je pense que j'ai lu un classique, honnêtement. Ça s'appelle Blunt, les 13 derniers jours. C'est de... Voyons l'auteur, Jean-Jacques Pelletier. Voilà, je pense que c'est un classique. Honnêtement, c'est excellent. Vous allez voir la couverture ici. Et je suis en mortaise, n'est-ce pas? J'ai appris ce mot-là en télévision dans mes études au cégep. Alors, en gros, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que Blunt, qui s'appelait Nicolas Strain avant, c'était un agent double là, qui était comme en mission. Puis, il a été témoin, en fait, d'un accord très important entre des pays qui doit rester secret. Donc, il s'est fait laver la mémoire, c'est ce que pensait l'équipe, mais non, il a réussi à conserver ses souvenirs et il est parti vivre en cachette dans la ville où tout le monde était sûr qu'il allait vivre, Montréal. Se sont dit, il ne fera pas cette erreur-là. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se cacher en vivant à Montréal. Et quelques années plus tard, en fait, ses services secrets qui l'engageaient réussissent à le retrouver sous sa nouvelle identité, qui est Horace Blunt. Et lui propose une dernière mission parce que là, il y a comme une menace de guerre bactériologique. Et là, tu ne sais pas qui se joue de qui. Et là, il y a des pactes qui se font à l'international. Et puis, c'est vraiment les décideurs, c'est vraiment du monde super raciste là, qui voit le monde comme un échiquier vulgaire. Et c'est très intéressant. C'est 500 pages bien tassées, mais on ne s'ennuie pas une seconde. Et Blunt compare un peu ses stratégies à un jeu de Go. Lui, il joue au Go, qui est une espèce de grande grille avec
des deuxième référence au Go ce soir.
Oui.
C'est quand même spécial.
Voilà. Et donc, il nous explique le Go à travers les chapitres et comment il transpose ça dans sa stratégie d'espionnage. Et c'est passionnant. Je vous le conseille.
Aïe, aïe.
Deuxième livre. Alors, c'est le troisième. Deux! C'est le troisième d'une trilogie. En fait, je n'ai pas lu les deux premiers volumes. Je me suis jointe à la fin de la trilogie.
Ça t'a-tu fait chier, ça?
Des fois, ça me fait chier. Mais des fois, je commence un roman que c'est le troisième d'une trilogie, d'une saga familiale. Mais tu sais, on réussit quand même à embarquer dedans. C'est tout le temps le même genre d'affaires. Ça, ceci dit, c'est un essai, en fait. C'est la série Les Remarquables Oubliés, le tome 3. Et donc, le premier tome, c'est écrit par Serge Bouchard, qui était anthropologue, auteur, et sa conjointe, Marie-Christine Lévesque, qui était auteur aussi. Ils sont décédés, en fait, elle en 2020, puis lui en 2021.
Rest in power.
Rest in Austin Power. Et ce qui est triste, c'est qu'ils sont morts avant la révision de leur propre livre, en fait. Donc, l'éditeur a fait
cette
tâche.
C'est plein de
fautes. C'est plein de fautes. Les marges n'ont pas d'allure.
On comprend rien.
Il y a des notes à main.
Il y a des spots de café.
Ça gosse.
Des spots de café.
Et donc, ils avaient écrit le tome 1 qui était « Elles ont fait l'Amérique » sur des femmes exceptionnelles qu'on ne connaît pas nécessairement dans l'histoire de toutes les Amériques. Là, on parle évidemment nord, sud, centre. Et ils ont couru l'Amérique, des histoires de coureurs des bois. Et ce tome 3, c'est en fait « Ils étaient l'Amérique ». Donc, vous pouvez voir la couverture ici. C'est sur des personnes, en fait, des Premières Nations, des personnages clés des Premières Nations. Et en fait, il n'y a pas de témoignages écrits qui ont été laissés par ces gens-là parce qu'ils n'avaient
pas écrit.
Ils n'avaient pas la vanité d'écrire leur mémoire. Et nous, on a la version, évidemment, des conquérants français et anglais qui sont... On le découvre par les écrits qui sont colligés par les auteurs et qu'ils ont créés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, en fait.
C'est sûr.
Ben oui. Comme penser que, Donnacona était le chef de Stadacone, c'était pas le chef, en fait, parce que c'était une nation qui était matriarcale. Donc, il était porte-parole.
C'est comme Québec solidaire.
Oui.
Exactement.
Et Manon était chef. Elle était là.
Mais, Manon Donnacona.
Manon Donnacona. Et donc, lui, il était plus comme porte-parole, parce qu'il savait s'exprimer. Mais Cartier, lui, ne comprenait pas que la chefferie pouvait être autre chose que ce que lui concevait.
Évidemment.
Donc, il se disait, il faut qu'il y ait juste un chef. Il ne peut pas en avoir deux, tu sais, alors que tout
c'est
le monde
vraiment comme
colle,
Québec,
c'est
ça.
C'est la même affaire.
C'est le débat, là. Oui, ouais, mais c'est qui le chef?
C'est
qui, c'est qui le chef?
C'est les ficelles. Il est où, le polybureau?
Oui, exact.
Il est
où, hein? Et il a et Donnacona en fait a fini kidnappé et est mort dans l'oubli en France, jeté dans une fosse commune. Et il y a plein de choses qu'on apprend comme ça. Par exemple, Pontiac, qui était aussi un chef, qui était un guerrier exceptionnel, un stratège exceptionnel. Et avec, je veux pas dire, c'est-tu l'Anglade? Oui. Ils avaient conseillé aux Français de se battre comme les Anglais à la bataille des Plaines. Faire comme, cachez-vous, vous aussi. Ayez des stratégies. Allez pas vous mettre en ligne puis demander aux
avec
autres de tirer en premier, vous d'abord. Exactement. Et s'ils les avaient écoutés, ben, su pu être décisif dans cette bataille. Elle aurait pu être gagnée par les Français.
Ça aurait été bien différent.
Ça aurait été bien différent.
On en aurait peut-être moins parlé.
T'es en train de dire que d'écouter les gens qui sont un peu différents de nous, c'est une bonne chose.
Oui!
Qui l'a cru?
Aller chercher le meilleur des gens, c'est la chose à faire.
Mathieu, oui! Alors, je vous le conseille, c'est une mine d'or de découvertes et d'informations. Vraiment, je vous le conseille.
Cool.
Et le troisième que je vous conseille, et non le moindre, ça m'est venu l'idée parce que j'ai vu le film Barbie avec des amis cet été, comme beaucoup de gens.
T'étais-tu déguisée?
Je portais du rose. Ouais, on m'a dit que c'était pas tant rose, mais c'est pas grave.
Bon, okay.
Et moi, j'ai trouvé que j'écoutais le propos, puis je me suis dit, ah, mais tu sais, ça tape sur un clou qui est déjà tapé, ça défonce des portes déjà ouvertes en tant que de parler du féminisme. Mais je me suis dit, non, Linda, toi, tu baignes déjà beaucoup dans ce discours-là, c'est beaucoup dans ta chambre d'écho. Et donc, je me suis dit, OK, c'est encore très utile, voire j'haïs le mot nécessaire, là, mais j'haïs plus ça pour des œuvres de fiction, là, c'est un essai, fait que je vais
l'utiliser. C'est nécessaire.
Ce film est nécessaire! Gosse tellement. Comme c'est de la non-fiction, je vais l'utiliser. 100%
d'accord.
Parce qu'il y a quand même des gens qui sont sortis frustrés du film Barbie et à qui il faut répéter ces choses-là.
Oui.
Et donc, je vous conseille un essai qui s'appelle « Mine de rien ». Donc, on va le voir à l'écran bientôt. Ça date d'il y a quelques années. C'est écrit par trois professeurs. Je pense qu'elles étaient toutes à l'Université d'Ottawa en même temps, dont Lucie Joubert, que j'ai connue dans la vie, qui était beaucoup fan d'humour féminin. On s'est croisés comme ça dans le temps que je faisais du stand-up. Je vais vous lire une partie du quatrième de couverture, vous allez comprendre. Alors, mine de rien, ce sont trois féministes qui mettent en commun leurs plumes grinçantes pour dépeindre nos travers avec des lunettes pas vraiment roses, du marketing aux toilettes publiques, en passant par les médias sociaux, la culture du viol, l'instinct maternel ou la masturbation. Leur chronique s'indigne de l'ordinaire sexiste et prouve qu'il est aussi arbitraire qu'anachronique. Et ça, j'ai un petit extra à vous lire. Alors, Isabelle Boisclair, qui est une des auteurs, elle parle en fait le dictat que faut se trouver belle, puis faut s'aimer, puis tout, puis on dit aux femmes, trouvez-vous belle et tout. Et donc, elle dit ainsi, donc, le principal malheur de la femme moderne serait de ne pas se trouver belle. On n'a pas le choix, il faut se trouver belle. Imagine-t-on seulement lancer pareille injonction aux hommes? Sois beau, vous êtes beau, aime-toi, tout le ridicule de la chose apparaît. Cela témoigne bien de l'iniquité dans la distribution des valeurs. La légitimité, peu importe leur apparence physique, est reconnue d'emblée aux hommes. Plus récemment, une nouvelle injonction se fait entendre. Il faut se masturber. Certes, l'injonction ne s'adresse pas toujours spécifiquement aux femmes, mais il faut voir. C'est bien dans les magazines féminins que paraissent ces reportages et ils sont toujours accompagnés de photographies de femmes. Il faut apprendre à connaître son sexe, problème qui ne semble pas toucher les hommes. Tandis que les femmes, c'est nunuche, elles ont besoin de conseils. Prenez du temps et pratiquez. Masturbez-vous tous les jours, si possible. Quand on ne pratique pas, la motivation s'éteint, nous écrivait Elisa Brun. De quoi se plaint-on, vous entends-je penser?
Ah ouais. Le
coup de playette, encore une coincée. D'abord, on se plaint du fait que cela semble nécessiter une autorisation. En fait, ensuite, du fait que cette injonction soit accompagnée d'une autre liée à la non-gratuité. Car chez les femmes, même la masturbation ne saurait être gratuite. Il faut qu'elle serve. À quoi? À l'épanouissement, toi chose. Masturbation, a path to enlightenment. Il faut ainsi pratiquer une mindful masturbation. Encore une fois, a-t-on jamais pensé à suggérer cela à un homme? Va pratiquer la masturbation pleinement consciente, mon ami, ça te fera du bien. Okay. Homme, masturbez-vous pour renouer avec vous-même. Non, on ne suggère pas aux hommes de se masturber pour leur bien-être, car pour les hommes, le droit de se toucher est largement admis. Et depuis, pour se toucher, et depuis longtemps. Apparemment, les femmes, elles, ont besoin d'une autorisation pour se toucher, car hors de ces cadres précis de gestion de son soi-même pour un plus grand bien-être intérieur, la masturbation féminine reste le grand tabou. Alors, pour d'autres écrits grinçants, je vous conseille, mine de rien, c'était ben la oui, fin de bon mes suggestions de lecture, mes amis.
Allez dormir là-dessus. De manière décomplexée, c'est ça qu'on veut dire aujourd'hui. Oh.
Moi, j'aimerais...
Et inconsciente.
Et oui, oui ça, des fois, mettez-vous dans les clopes.
Asseyez-vous, sa sécheuse, tout le monde.
Moi, ça me... Il y a une fois, je pense que c'est dans un épisode, un live à l'extérieur, Linda, que tu avais parlé de la neutralité du
corps. La neutralité corporelle, oui.
Exactement.
Oui, oui.
Puis j'y pense très souvent à ça aussi, sur, comme façon de voir. Puis là, tu viens de lire un passage qui m'a rappelé ça.
Oh,
très intéressant.
Tant mieux. Je suis bien contente.
J'aime ça.
Voilà. Merci, Linda Vida.
Fait plaisir.
Merci à moi. Merci, Linda. On va faire ça vite, Étienne.
Ben oui.
Mettre le jeu du temps, hein.
Ouais, du temps, là, du temps.
La chronique, super cool. Hey, aujourd'hui les amis, je profite de l'absence de Julien pour parler de lutte yes. sans qu'il se plaigne.
Enfin.
Parce que c'est une demande spéciale, hein? On répond à des demandes spéciales aux gens sur Discord. Surtout là, les gens nous écrivent là, mais écrivez-nous vos demandes spéciales, je les prends en note puis on essaie d'en faire une par semaine. Mm-hmm. Fait que là cette semaine, il y a Big Goss SD ou Bigus SD ou Bigu SSD. Je sais pas trop, c'est dans un seul mot via Discord. Donc il demandait une chronique sur la lutte hardcore ou la ECW, la Extreme Championship Wrestling. Je triche un peu là-dessus parce que la semaine dernière, il y a eu deux décès majeurs qui ont résonné très différemment pour les fans de lutte. Terry Funk, un ancien de la lutte, il est mort à 79 ans, d'une vie bien remplie. Et Bray Wyatt, quelqu'un que j'affectionnais particulièrement, qui est décédé à l'âge de 36 ans d'une crise cardiaque à cause que son cœur avait été affaibli par la COVID plutôt cette année. Puis là, il est mort subitement. Puis,
Par le vaccin.
C'est assez brutal. Ça a été une dure semaine pour les fans de lutte. Puis donc, il y a une demande spéciale pour parler de lutte hardcore. Je vais vous parler plutôt de Terry Funk, qui était une légende là, dans ce domaine, dans ce style de lutte-là, dont la carrière s'est étirée sur 5 décennies. Là. Vous allez voir, le gars, c'est quand même quelque chose. Je fais ça rapidement. Il est né en Indiana. C'est le fils de Dory Funk, qui était une légende locale. À l'époque, la lutte était séparée en territoires aux États-Unis. Chacun luttait dans son petit territoire. Dory Funk était une légende dans son coin. Puis après ça, il a déménagé au Texas, qui était une place où la lutte marchait très fort. Et rapidement, il s'est monté sa propre ligue de lutte qui est devenue une des plus populaires au Texas, la Western State Sports. Fait que là, les fils Funk, parce que Terry Funk avait un frère qui s'appelait Dory Funk Jr., les deux ont commencé à faire de la lutte très, très jeune. Puis, on fait de la lutte spectacle. Après ça, ils sont allés pratiquer la lutte olympique, là, la lutte qu'on connaît, qu'on voit aux Olympiques, là, la lutte amateur, mais qui est plus professionnel que la lutte spectacle. Mm-hmm. Puis ils se sont joints à la Texas State University en 1962. Puis trois ans plus tard, ils jugeaient qu'ils avaient assez appris la technique de la lutte pour retourner dans la compagnie de leur père pour lutter dans la lutte spectacle. Et le 9 décembre 1965, Terry Funk avait son premier match de lutte contre Sputnik Monroe. que je connaissais pas, mais que je trouve que c'est un des meilleurs tabarnak de nom de l'histoire de la lutte. Je vais risquer de dire que c'est probablement un personnage russe.
Sans doute,
Donc, un méchant. Ensuite, il a formé une équipe avec son frère Dory Jr. Et à l'intérieur de 5 ans, ils sont devenus une des meilleures attractions majeures de la lutte texane, en ayant acquis la réputation d'être les meilleurs lutteurs techniques. Puis c'est drôle parce qu'on connaît Terry Funk parce que c'est un gars qui se tapait avec des barbelés, puis des chaises, puis des affaires de même. Mais quand il était jeune, c'était un esti d'athlète, puis il était réputé pour ça. Ensuite, il s'est marié avec sa femme Vicky Ann, qui était son épouse jusqu'à son décès en 2019. Oh. Et ça, dans le monde de la lutte, assez rare, je vous dirais.
Dans le monde en général.
Leur talent des deux frères Funk a attiré l'attention de la NWA, qui était à l'époque la plus grosse promotion. Puis Dory Jr., donc le frère de Terry, est devenu champion quelques années plus tard. Puis en 1975, 5 ans plus tard, Dory n'a pas pu se présenter à un show et son frère Terry l'a remplacé et il est devenu champion à ce moment-là, lui aussi. Premier championnat pour Terry Funk en 1975. Et je vais vous dire rapidement comme ça qu'il a lutté la dernière fois en 2017. Fait que, en 1975, il est devenu champion pour la première fois. En 2017, il a livré son dernier match. Il a eu un règne de 14 mois. Il a battu des légendes de la lutte, Pat O'Connor, Giant Baba, Dusty Rhodes. Il est allé lutter au Japon, en Australie, à Singapour. La lutte commençait à s'internationaliser à l'époque. Puis après ça, il y a eu une rivalité mémorable avec Jerry the King Lawler, célèbre personnage qu'on peut voir, entre autres, qui a eu une rivalité avec, l'humoriste... Andy Kaufman. qu'on peut voir dans les films de Andy Kaufman, de Jerry Lawler, il était un grand personnage important de ça. Ensuite, il y a une carrière au Japon qui est une place où la lutte est moins technique, plus brutale. Il y a quand même de la bonne lutte technique, mais ça se tapoche fort dans la lutte japonaise. Puis c'est là qu'il a commencé à modifier un peu son style pour se diriger un peu plus vers la lutte hardcore. Là-bas, il s'est battu contre Bruiser Brody, Stan Hansen, les fans de lutte. Vous savez de quoi je parle. Des vrais de vrais badass, là, des gros Américains badass qui se tapaient fort. Ensuite, en 83-84, il y a eu une brève carrière musicale avec deux albums qui s'appelaient Texas Bronco et Great Texan, qui semble sortir au Japon, là, si on se fait à la pochette. D'ailleurs, on a un extrait de la chanson Barbara Streisand's Nose, qui est un peu un rip-off de la tune Beat It. Là, on va en gros, c'est l'histoire d'une fille qui vient voir, puis elle est parfaite, sauf qu'elle se rend compte qu'elle a le nez de Barbara Streisand. Puis là, ça le fait bien capoter de ça. Je peux laisser l'extrait pendant que je parle par-dessus. Après ça, en 1985, il a eu son début à la WWE, anciennement la WWF, et il a tout de suite lutté avec les plus grands. Il joue sur son stéréotype du gars du Sud. Il a un fer à marquer, là, un branding iron, puis à la fin des matchs, il brand ses adversaires.
Mais ça va faire mal, ça, là-dessus?
Ben, c'est un peu de l'encre, je pense, si je regarde les vieilles images. Il y a un programme avec Hulk Hogan. Avec ça, il devient très connu, puis il décroche un rôle dans la série de Cowboy Wild Side, qui n'a pas été un grand succès. Mais ça lui a donné sa carte de la Screen Actors Guild, ce qui a donné des assurances pour le restant de ses jours. Oh, et ça, encore une fois, pour un lutteur, c'est un tabarnak de bon mot.
Oui, mais...
En 1978, il y a un caméo dans Paradise Alley de Sylvester Stallone, et il est devenu ben chum avec Sylvester Stallone, qui lui a donné un rôle dans Over the Top en 1987. Ensuite, il a joué dans Roadhouse en 89. Il jouait un videur, là, un doorman. Puis, il était chorégraphe pour le combat de rue dans Rocky V contre Tommy Gunn. Là, il se bat là, dans la rue. C'est lui qui a chorégraphié ça. Fait qu'il a toujours été un peu dans le monde du cinéma. Même malgré tout ça, la lutte reste son principal intérêt. Puis, il y a une immense rivalité avec Ric Flair, le célèbre Ric Flair, en 89 à la WCW. Après ça, il a quitté puis il est allé lutter à la ECW, qui s'appelait à l'époque la Eastern Championship Wrestling, avant de devenir la Extreme Championship Wrestling. Et là, il se concentre vraiment plus sur les matchs hardcore. Puis, ça donne lieu à une promo que je vais vous montrer qui est hautement émotive. Puis, il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui vont même à ce jour dans ces zones-là. Après un match particulièrement brutal contre Sabu et Shane Douglas, à l'époque, la WWF et la WCW étaient les deux plus grosses compagnies et devenaient de la lutte spectacle. Puis lui était comme un peu triste de ça parce que lui, il voyait ça vraiment comme un truc athlétique, puis il trouvait que ça manquait de respect envers les lutteurs. Puis après un match super difficile, ben il a livré la promo suivante. Terry, if we can just get a few words from you tonight. Peux-tu nous en donner un peu plus, Joe?
I love wrestling. I've loved it all my life, and I'm going to tell you that I'm not real proud of the way that it's evolved in a lot of places in the country. I don't believe that the WCW is worth a damn.
On peut, I think it really kills my profession. Que, c'est ça, il n'avait pas peur de pleurer. Il montrait vraiment tout le temps ses vraies émotions. Je pense que c'est pour ça que les gens l'aimaient aussi. Oui. Ensuite, j'ai sauté la prochaine vidéo, Joe, pour aller à la suivante. Après ça, il a commencé à faire des deathmatch au Japon. Puis là, au Japon, comme je vous disais, ça brasse. Il s'est retrouvé en finale d'un tournoi King of the Deathmatch. Puis il se retrouve en finale contre Cactus Jack, Mick Foley, dont je porte fièrement le T-shirt aujourd'hui. Puis dans un match, le match ultra-violent intitulé « Un match No Ropes, Barbed Wire, Exploding Barbed Wire, Boards and Exploding Ring, Time Bomb, Dead Match ». Et là, je vous ai fait un montage, je vais parler par-dessus, mais vous allez pouvoir voir à l'écran. OK, ça, c'est les cordes sont faites en barbelé. Quand les gens arrivent d'un corde, les cordes explosent. Puis à la fin, il y a un timer. Puis à la fin du timer, tout le ring explose au complet. Ouais, il y a eu ce match-là qui a été... regardez, pouf! Puis là, tu vas aller le voir, il est tout coupé parce que c'est du vrai barbelé et il est tout brûlé dans le milieu du dos.
Mais non!
Ben
mais
oui!
Non.
Parce que c'est la lutte.
C'est ça de la lutte hardcore. Là,
ouais, ça, c'est de la vraie, de vraie lutte c'est hardcore. C'est vrai? Ouais, d'aplomb, là. Pouf! Dans les barbelés, comme
non.
ça. Puis ça, quand il est allé faire ce match-là, ça existait pas. Puis là, à ce moment-là, il est quand même assez âgé. Là, je me souviens plus. On était en 97 à ce moment-là.
C'est
dommage
qu'il n'y a pas comme pogné à barbelé. Oui, non, donc! Brûler et couper le pad.
Ça brûlait le pad.
Tout explose.
Fait que tout explose tout le temps. Puis à ce moment-là, là, il a passé la cinquantaine, là, le bon Terry Funk. Puis ben, ça, c'est des matchs comme ça, on n'en voyait pas beaucoup aux États-Unis, en Amérique. Puis ben, ça se passait par cassette VHS. Puis ça lui a donné un second souffle. Les jeunes qui trippaient sur la lutte hardcore, ils ont fait tabarnak, ce gars-là, il est vraiment le fun. Fait que là, il est allé.
C'est quand qu'il traverse le Canada? Ah, c'est Terry Fox.
Ça, c'est Terry Fox.
C'est drôle, ça. C'est pas la même personne.
Ben, puis après ça, ben, c'est ça, ça a relancé sa carrière. Il y a eu plusieurs runs à la WWE. Puis c'est un gars qui aurait pu être millionnaire des dizaines de fois, mais il a toujours voulu faire ce que lui, ça, il tentait de faire. Fait que rapidement, il y a eu plusieurs fois, il a refusé des contrats à la WWE, la ECW, la WCW, qui aurait rapporté beaucoup d'argent pour aller faire des petites promotions indépendantes, pour aller aider des compagnies qui se lançaient à se démarrer, à faire gagner des jeunes. Tu sais, il avait pas peur de mettre les autres over, comme on dit dans la lutte.
Aller faire de l'impro. Oh non, ça, c'était Pierre-Luc Funk.
Pierre-Luc Funk, ne pas se mélanger. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça aussi que sa légende. Puis c'est un gars, tu sais, dans toute sa carrière, donc il a lutté jusqu'en 2017. Il a lutté pendant plus de 50 ans. Puis, malheureusement, dans la dernière année de sa vie, il commençait à faire un petit peu de démence. Mais on dit que la majorité du temps, il était quand même très lucide. Puis il a une belle vie, une belle fin de vie. Comme je disais plus tôt, son épouse, il était avec des années 60 jusqu'en 2019. Il a une vie toujours clean, il n'a jamais été trop dans la controverse. Puis ça, c'est vraiment une des dernières personnes dans le monde de la lutte qui a eu cette vie-là, puis qui a réussi à bien s'en tirer, puis à être un bon gars dans le monde de la lutte. Puis c'était une grosse perte. Puis je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, ce match-là qu'on a vu, qui s'appelle... vous pouvez taper Terry Funk, puis Death Match, Barbed Wire, Death Match. Ces matchs, celui-là contre Onita, ces matchs contre Mick Foley, tous des très bons matchs. Puis ceux qui ont vu la série Dark Side of the Ring, des très bons documentaires, il y a un truc sur la lutte au Japon extrême, puis il apparaît dans ça. Fait que vous pouvez aller voir Terry Funk. Et
la lutte n'est plus.
Rest in peace, Terry Funk.
Pierre-Luc Funk et Terry Funk.
On va défoncer un peu parce que Étienne est là pour nous.
On va défoncer la scène des sœurs.
Hey, toutes les scènes de toutes les sœurs.
Qui se fera de jouer les rues.
J'aime pas ça quand on défonce. M'en calisse.
Il est pas là. Fait qu'aujourd'hui, je vous ai ramené mon livre « Comment savoir draguer quand on est timide » par Anthony Leduc. Avec succès en plus.
Oui.
C'est très important. Parce que c'est bien beau savoir draguer, mais encore faut-il savoir draguer
avec succès. Succès.
Sinon, ça sert à rien.
Ça serait d'autre, comment mal draguer.
Oui, draguer avec échec. La dernière fois, on s'était laissé sur le fait que lui, il était super gêné, Anthony Leduc. Il l'a répété plein de fois. Puis là, il est allé voir un gars dans un bar qui voyait qu'il pognait tout le temps avec les femmes. Puis là, il est allé y parler. Puis il a demandé, tu sais, explique-moi comment tu fais. Puis le gars, il avait dit, mais t'es venu me parler, t'es pas gêné. Puis là, il a dit, ben, c'est parce que toi, t'es pas une femme. Tu sais, fait que ça m'a pas gêné d'aller te parler.
Ah, oui, oh.
Puis là, il avait dit, ben, t'as juste à faire la même affaire que tu ferais avec moi, fais-le avec les femmes. Oh. Quand t'abordes une femme, fais comme si c'était un homme. Et il avait conclu en disant, les femmes sont des hommes comme les autres. Et voilà. Et ça, c'était le conseil qui a changé.
C'est ça qu'il se trouve clever là, quand il dit des choses comme ça. Là. Oh, oui. Oh là là.
Et puis là, ben, on continue dans ce paragraphe-là. Les femmes sont des hommes comme les autres. Le jour même, j'abordais la première femme de ma vie. Ça n'a pas été plus loin cette fois-là, mais c'était déjà une grande victoire pour moi. J'ai continué à suivre la méthode de ce dragueur timide et par une belle soirée d'automne, je suis sorti pour la première fois avec une femme que je vais aborder et draguer tout seul.
Mmh.
Oh.
Comme un grand. C'est pas vrai.
C'est comme enlever les petits
trous. Comme un grand.
Au fur et à mesure, je suis devenu ce qu'on peut appeler un bon dragueur. Ce résultat, je ne le dois qu'à la méthode qu'utilisait ce dragueur timide que j'ai rencontré un jour dans un bistrot. Et cette méthode, je vais la partager avec vous. Et même si vous avez déjà essayé beaucoup de façons pour perdre votre timidité en draguant, vous serez surpris du résultat. Déjà parce que vouloir perdre cette timidité est une erreur. Il faut juste savoir l'utiliser à votre avantage.
Oh.
Ah.
Parce que ça, c'est un de ses grands secrets, c'est que la timidité peut devenir une force, selon lui. Je vais vous raconter une histoire vraie qui va mieux vous faire comprendre ce concept que n'importe quel discours. Un employé de musée travaillait dans un bureau à mettre des tampons sur des lettres et à les mettre sous des enveloppes.
OK.
Drôle de job, je sais pas drôle. Un jour, son chef lui annonce qu'il doit changer de service et l'employé se retrouve à devoir faire le guide pour faire visiter le musée à des groupes de visiteurs.
Comme Isabelle Junot.
Exactement. C'est comme ça qu'elle a eu sa job. Lucie était en train de mettre des tampons sur des lettres. L'employé, qui était un grand timide, devint blême. Comment allait-il pouvoir parler en public? Il essaya de refuser, mais son chef fut intransigeant. Il devait faire les visites au musée où c'était la porte. Il aurait pu juste choisir de prendre la porte, mais bon. L'employé passa alors des nuits blanches.
Comme Isabelle.
Appréhendant sa première visite et se préparant tant bien que mal à répéter son texte. Le jour tant redouté arriva et l'employé, transpirant à grosses gouttes, se retrouva devant un groupe de 30 visiteurs avides d'écouter leur guide. Quand il prit la parole, il bredouilla, se trompa dans son texte et sentit tous les regards sur lui. Finalement, arrivé à la fin de sa visite, tant bien que mal, il souffla. La visite n'avait pas été un franc succès, mais le principal était là. Il avait terminé sa première visite. La deuxième se passa un peu mieux, mais ce ne fut pas non plus une grande réussite. Puis 10 visites, puis 100 visites. À votre avis, comment s'était passée sa 100e visite par rapport à la première?
Mieux!
Vous l'avez deviné?
100 fois mieux.
Beaucoup mieux. Ce fut même un franc succès, au point que lorsque le chef de l'employé lui annonça qu'il devait retourner à son ancien poste de bureau à coller des enveloppes, l'employé insista pour continuer à faire le guide pour les visites du musée et il devint par la suite le meilleur guide du musée.
Oh!
Histoire qui est vraiment...
Genre du tronc.
C'est peut-être des certificats de meilleur guide du musée qui sont dans les petites enveloppes.
C'est vrai, c'est peut-être ça. Puis là, finalement, il a pu en obtenir un pour
lui. J'aime aussi qu'un des titres, ce soit que la timidité peut devenir une force. Deux points. C'est une vraie cocotte minute.
Oui, c'est vrai. C'est une vraie cocotte minute. La timidité, Guillaume, est une marque d'intelligence. Savais-tu ça? Car elle révèle que vous êtes conscient de la présence de l'autre.
Ah.
Et ça, c'est très Murphy Cooper.
Oui, oui, oui.
Que vous faites attention à votre interlocuteur. Murphy Cooper est un être bien intelligent. Et cela plaît aux femmes, ça. Oui. Fait que c'est ça l'affaire qu'il faut réaliser, que les femmes aiment ça, dans le fond, un gars qui se prend pas pour un autre puis qui est timide parce qu'il est conscient que les autres le regardent puis qu'il fait une impression puis il veut faire une bonne impression.
C'est vrai que c'est quand même une preuve d'empathie.
Ben voilà. Quelqu'un qui est extraverti n'a souvent pas conscience de la présence de l'autre. Ce sont des personnes culottées qui n'ont pas peur du ridicule parce qu'elles n'ont pas conscience vraiment de ce qu'elles font ou disent. Un animal, par exemple.
Un animal, c'est jamais culotté.
Les femmes n'aiment pas les animaux.
Non, c'est bien connu. Elles les détestent. Un animal n'a pas conscience de l'existence des autres. Ils sont vraiment tweets de même, ils ne comprennent rien. C'est pour cela que les animaux ne sont pas timides. C'est bien connu. Comme tu vas voir un écureuil, il va venir te parler. Puis il va s'en crisser ben raide, là. On peut dire que la timidité est le propre de l'homme. Soyez fiers de votre timidité. C'est votre force, c'est votre atout, c'est votre arme fatale si vous savez l'apprivoiser.
Ouais. Ça devient vraiment offensif. Hein?
Ouais.
C'est ça, la timidité offensive.
Ouais, c'est ça, une vraie cocotte minute.
On retourne contre l'adversaire. Ça, hein? On est tout le temps en train de dire ça. Principe de base à connaître avant d'aborder une femme. Donc, ah, en voici trois principes de base.
Ça, je faudrait que Linda valide si
oui,
ça
ben,
fonctionne.
Oui, effectivement. Okay. On pourrait le premier principe de base, je pense que tu vas sûrement c'est être base, d'accord avec ce principe-là, base. Ne pas être trop insistant.
Ne pas être insistant du tout, en
oui,
fait.
Mais oui, mais pas trop, en tout cas. Oui. Un petit peu. Si votre technique pour aborder la femme ne fonctionne pas, ne soyez pas trop lourd et passez à une autre. En effet, il est inutile d'insister si la femme que vous draguez se referme sur elle-même, remet la tête dans son bouquin ou s'isole avec ses écouteurs. Pouf! ce ne sont pas les femmes qui manquent dans le monde. Elles sont même majoritaires par rapport aux hommes. Donc, statistiquement, il existe plusieurs femmes pour un seul homme. Alors, pourquoi aller perdre du temps avec une femme qui n'est pas réceptive?
Je ne sais pas s'il est allé vérifier que statistiquement, il y avait assez de femmes,
il y avait assez de femmes pour que tu en trouves une deuxième. En plus, si vous insistez lourdement, elle risque de faire un scandale et de vous accuser de harcèlement sexuel sur Twitter.
Ouais.
Tu sais comment est-ce qu'il sent?
Les bonnes femmes.
On peut plus rien faire, est-ce qu'il peut plus dire une fille qui est belle? Donc, prudent!
Prudent, une fille qui est belle, 111 fois de suite.
Non, impossible. Ah,
c'est fou parce que c'est comme, là, on réalise à ce moment-là que ça a été comme écrit à une époque où Twitter existait déjà.
Oui,
puis qu'il y avait déjà
puis qu'il y avait déjà le Me Too.
Fait que c'est
ça,
vraiment,
ouais,
comme, ça, c'est
ça
récent. C'est
vraiment malaise.
C'est récent, là, je me souviens plus de la date, mais il me semble que c'était comme genre là, deux ans. Là.
Okay.
C'est récent.
Encore ensuite, chaud ce livre-là.
Deuxième principe de base. La philosophie d'un dragueur est simple. Plus je draguerai de femmes, plus j'aurai de chances d'en trouver une qui soit réceptive à mon charme. C'est une simple question de statistique et de probabilité. La loi des grands nombres. Si je parle à deux femmes dans la journée, j'aurai moins de chances de succès que si je parle à 50 femmes. Donc voilà.
Hey, ça fait une grosse journée.
C'est les grosses journées. Deux femmes à l'heure, tout le temps, même la nuit. Ça paraît logique. D'ailleurs, ça l'est.
Voilà. Moi, j'adore quand un gars m'aborde en me disant « Salut, j'ai parlé à 49 autres femmes aujourd'hui.
» Et toi, comment vas-tu? Bon, la tête dans ton bouquin? Suivant! Ensuite, le troisième gros principe
c'est
de base.
C'est dès que la fille se lève pour aller aux toilettes. Bon,
Zombie, on
Next.
Va à l'autre. Nicole, savoir à l'avance si vous plaisez à une femme, ce serait pratique. Mais c'est possible. Souvent, vous pouvez savoir juste avec le comportement physique d'une femme si elle est intéressée par vous
oh
ou pas. Le saviez-vous? On reviendra sur ce sujet un peu plus tard pour reconnaître les signaux
moi, j'ai beaucoup
positifs.
De femmes qui me
faisaient
ça, là.
Ouais. Est-ce que c'est un signal positif, ça? On va y revenir un peu plus tard.
Ouais.
On ne sait pas.
Ben, bon. Si elle fait ça, c'est peut-être parce que tu es un peu trop insistant, Mathieu.
Peut-être que juste ça lui prend.
Vas-y, écoute, sois attentif.
Peut-être qu'elle veut te montrer qu'elle est mariée, mais elle se trompe de doigt.
Ben oui,
ouais, c'est ça.
OK, maintenant qu'on connaît ces principes-là, il faut savoir briser la glace. Dans n'importe quelle situation, vous avez la possibilité de briser la glace avec une femme inconnue. Si vous êtes au travail, vous pouvez dire « Bonjour, pas trop de travail aujourd'hui? »
Ah, oh, Seigneur.
C'est un bon exemple. Il faut que ce soit une question assez ouverte, assez naturelle, passe-partout. Dès que vous avez l'occasion de dire bonjour à un inconnu dans l'ascenseur, au comptoir d'un bar ou tout autre lieu, ça, c'est, j'aime ça quand c'est on énumère deux affaires
ouais,
et on finit par tous les autres.
Tous les autres.
Bref, pas besoin d'énumérer. Vous pouvez ajouter « Bonjour, vous allez bien? » C'est une question anodine, oui, mais qui demande une réponse, contrairement à quelle autre question? Posez pas des questions rhétoriques.
C'est non ironiquement la chronique de Julien qui demande « Ça va-tu, toi? »
Ouais, exact. C'est ça. C'est ça. Une chronique.
Il essaie de nous séduire de cette manière-là, en fait.
C'est
hein?
ça, dans le fond, il nous
c'est un grand timide.
Et puis il nous a tout passé un après l'autre, en plus.
Ouais, il essayait de trouver. Ah, pas réceptif.
Il était comme « Je veux parler à tout le monde. Il y a bien quelqu'un qui va finir par me traiter. »
Personne le souci.
Intérieurement, instinctivement, Julien savait qu'il fallait faire ça. La femme peut se contenter de vous répondre « Bonjour, oui, très bien, merci. » Mais il est également possible, si elle est plus ouverte, qu'elle vous réponde « Bonjour, oui, très bien, merci. » Et vous?
Oh.
Et là, c'est là, là, là il y a un échange. Là. Dans ce cas, vous pouvez lui raconter une anecdote que vous avez vécue dans la journée ou une anecdote inventée parce qu'après tout, elle ne sait pas ce que vous avez fait de votre journée. Et lui dire « Ah, aujourd'hui, j'ai vécu la pire réunion de ma vie. » En brisant la glace de cette façon, vous ne prenez aucun risque d'échec et vous risquez juste de tomber sur une femme qui a envie de parler et de vous confier ses soucis ou tout simplement de vous raconter sa journée. Continuez la conversation, puis proposez-lui un café si vous êtes au travail ou un verre si vous êtes dans un bar. Puis là, c'est parti.
Un souci contre une saucisse.
Et puis là, je vais conclure avec...
Saucisse.
C'est bien beau quand on est déjà dans un bar ou quand on est au travail. Mais éventuellement, tous nos collègues de travail nous ont virés de bar. Puis dans un bar, ben, tu sais, ça coûte cher. Alors, il faut savoir comment aborder une femme dans la rue.
Oh! J'haïs tout.
Ouais. Votre timidité peut vous bloquer pour aborder une femme dans la rue. Mais en vous habituant à parler aux femmes, vous y arriverez facilement.
C'est comme, tu sais, au début, j'étais comme... Ah, oh, tu sais, c'est vrai, hein? faut transformer les avantages en avantages, hein? La timidité, c'est une force. Puis là, j'étais comme, Plus les paragraphes passent, plus c'est poches. Pas trop,
ben, il dit les femmes du bureau, c'est sûr que selon sa stratégie, il a parlé. Mais ben, tu sais, mettons, là, moi, là, je pars dans le bureau une journée, là, puis là, je trouve toutes les filles du bureau. Combien ça prend de secondes avant que ça se sache?
Tu sais,
les
gens,
c'est avant-tête.
Hey, mais tu vas jouer aujourd'hui.
Aujourd'hui.
T'as-tu raconté la pire réunion de sa vie? Moi aussi. Là, je casse cette réunion-là, moi.
Surtout quand tu seras dans une place, c'est des cubicules. Puis là, tu t'entends à l'autre. Tu vas juste passer dans l'autre.
Pour vous entraîner donc à aborder une femme dans la rue, demandez des choses aux femmes que vous croisez, n'importe quelle femme.
Oh, non, non.
Demandez l'heure du feu, la boulangerie la plus proche, une station de métro, etc.
À quelle heure le feu?
À quelle heure le feu dans le métro? Ainsi, le contact avec une femme inconnue va peu à peu sembler normal pour votre cerveau et votre timidité va s'habituer à cette situation. Fait que là, à ce moment-là, tu n'essayes pas de cruiser, tu fais juste demander une information qu'elle va te donner, puis c'est tout.
C'est une pratique.
Juste pour comme tu es habitué de parler à une femme random. Okay. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante, draguer vraiment une femme dans la rue.
Linda qui est comme, oh. OK. Je suis comme, ah ouais?
Alors,
j'aime ton ouverture.
Maintenant que vous êtes rendu prêt à les draguer vraiment, tout d'abord, une règle de base. Pour pouvoir draguer une femme, il faut qu'elle soit immobile.
Tabarnak! Ah.
Ben voyons.
Ben oui. Non, mais c'est logique.
Faut-tu que tu la tiennes? Ou...
Ah ben là, ça, c'est pas dit. On ne peut pas draguer une femme en mouvement. C'est impossible, ça. Il y a des gens qui ont déjà essayé ça.
Ouais,
et tu peux pas draguer une femme en mouvement. Il n'y a aucun moyen. Il faut qu'elle soit arrêtée afin de pouvoir être réceptive à ce que vous lui dites. C'est pour ça que l'abordage existe. Pour faire stopper la femme.
Parce qu'une femme ne peut pas marcher et parler.
Et écouter. Non, impossible.
Impossible.
Cela peut être une demande de renseignement ou tout simplement pour lui dire qu'elle vous plaît. Quand vous commencez à l'aborder, précisez-lui que vous ne lui demandez que quelques secondes d'attention. Commencez avec ça et ça met en confiance. Là, moi, en tout cas,
hey, moi, là,
ça marche tout le
j'ai
temps.
J'ai pas de vibe de tueur si un gars me dit «
bouge pas,
tu me plais ».
Tu me plais, mais ça
juste
sera pas
quelques
long.
Secondes.
Juste quelques secondes. Oui, OK.
Ça fera pas mal.
Vous pouvez lui dire que vous tenez à lui faire savoir que vous la trouvez vraiment charmante. La femme peut alors être amusée, flattée et curieuse de continuer la conversation avec vous. Oui,
or not.
Ça va arriver souvent. Si ça ne marche pas, récidivez avec une autre femme, comme il y en a plein dans la rue. Là.
Mais oui.
C'est à tous les coins de rue. C'est en multipliant vos entraînements que vous réussirez à tomber sur une femme positivement intéressée et non pas négativement intéressée. Il n'y a pas de secret. Aucun grand dragueur ne drague qu'une seule femme. La réussite des grands dragueurs est qu'ils draguent énormément de femmes dans toutes les rues. Ainsi, sur le lot, il y a un pourcentage de réussite automatique et en même temps, le dragueur acquiert de l'expérience et devient meilleur.
Ah!
Alors voilà.
Hey, merci.
Donc, on va se laisser sur ça. Pratiquez ces conseils-là d'ici mon prochain passage.
Il n'y a aucun red flag.
Non,
ça aurait dû écrit sur des pages rouges.
Oui, ça aurait été bien. Voilà. Donc,
merci, Étienne.
Ben, merci, Étienne. Merci à vous. Merci à vous.
Merci, vous.
Hey, Joe, il faut que je te le dise, il y a eu plein de commentaires pour dire que ton travail est incroyable et invraisemblable. Cette main-là d'applaudissement va à Joe. On le dit jamais assez, mais Joe fait un travail incroyable nous, ici à Décidéré.
Ah, j'aime beaucoup
qui vous retrouve la semaine prochaine avec le retour de l'animateur, entre guillemets, Julien Bernatché. Fait que c'était Linda Bouchard, c'était Guillaume Dupuis, c'était Étienne Forêt et c'était Mathieu Niquette, le Yann Thériault du podcast Décidéré. On va avoir une version écourtée de Toujours vivant qui s'en vient dans quelques minutes à peine. Fait que merci d'avoir été là.
Merci
tout le monde et à la prochaine. C'était très fun d'être avec vous ce soir.
C'est bien amusé.
Au revoir.
Plus de rue, plus les gabarres, plus politique, plus la paix, décide et d'ailleurs. Humoriste, comme ma vie à vous, interdit aux adultes. Ha ha ha, loved.